France Culture.
Les fées radicales à la recherche du gay spirit. Un documentaire de Pierre Chassagneux et Julie Béressy. Épisode 2, le cercle du cœur.
This is already a medicinal plant.
Tiens, voilà une plante médicinale. Elle est juste devant la maison.
Yunis.
C'est du plantain. Il y en a un étroit et un large. Si vous prenez la sève de cette plante étroite, il accélérera la cicatrisation des plaies. Au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas ce que contenaient les plantes. Mais il leur suffisait de les regarder ou de les toucher pour savoir exactement lesquelles guérissaient. Cette fleur est très connue, tout le monde la connaît, la pâquerette. Et elle a parfois un peu de rouge, là, sur ses pétales. Au Moyen-Âge, quand les gens voyaient du rouge, ils pensaient au sang. Aujourd'hui, nous savons que c'est du fer. Le fer est bon pour le sang. Il l'enrichit et c'est ainsi qu'on détermine son pouvoir de guérison. Toutes les plantes difficiles à saisir, comme les orties ou les mûres avec leurs épines, sont généralement riches en minéraux. Pour moi, tout ça est très important. Sinon, pourquoi serais-je ici? Juste pour faire la fête? C'est bien aussi de se faire de nouveaux amis, de s'amuser et de célébrer la vie. Mais pour moi, il doit y avoir plus. Le rythme de nos vies est effréné. Alors que dans la nature, nous ne sommes pas dérangés. Ici, nous avons la possibilité de nous connecter au rythme naturel de la journée. Le matin, le soleil se lève, le temps, les éléments sont tous très proches. Et ce qui se passe après quelques jours passés dans la nature, c'est que l'on ralentit. Et en ralentissant, il est plus facile de se connecter. Et en ralentissant, nos conversations et nos liens deviennent un peu plus profonds. C'est un élément essentiel des fées.
Je pense que la spiritualité des fées radicales s'inspire du paganisme ou du néopaganisme.
Tinkerbell.
De mon côté, je suis très intéressé par la spiritualité, qui est un aspect de notre vie plus profond que notre matérialité, notre corporalité. Pour moi, tout est basé sur la spiritualité. Je m'intéresse donc à toutes les religions. Les religions païennes, les religions non païennes, les religions occidentales, asiatiques, la mythologie et les façons de les exprimer, de les comprendre. Je pense que c'est ce qui m'a attiré en tout premier lieu avec les fées radicales.
Alors donc le paganisme, c'est ce qui échappe à la tradition monothéiste judéo-chrétienne.
Guillaume Marsh, sociologue, professeur de civilisation des États-Unis à l'université Paris-Est Créteil.
Dans le cas des fées radicales, dans le cas de cette revendication un peu spirituelle, transcendantale de l'homosexualité, ça renvoie à des traditions païennes européennes, bon, en particulier de la Grèce antique. Mais dans le cas des États-Unis, très clairement, ça renvoie aux traditions païennes autochtones. Donc en particulier, les fées radicales se sont fait fort de revendiquer l'héritage amérindien de ce qu'on appelait à l'époque les berdaches, qui est donc, dans certaines traditions autochtones d'Amérique du Nord, l'idée que certains hommes avaient une âme féminine. Et la coexistence en eux d'un corps masculin et d'une âme féminine, les doter de certaines capacités, donc certains pouvoirs chamaniques, une capacité à entrer en contact avec les êtres de l'au-delà, avec l'âme des anciens qui étaient morts. Et donc, en réalité, il y avait certaines traditions autochtones dans lesquelles des hommes féminisés ou des hommes féminins, loin d'être des parias, au sein de leur société avaient au contraire un statut qui était plutôt valorisé, un statut singulier, qui était un statut de chaman. Donc évidemment, quand on est Harry Hay, qui fait partie des fondateurs des Radical Fairies, quand on est un homme homosexuel aux États-Unis dans les années 1950 et qu'on prend connaissance de ça, ben c'est une aubaine, quoi, parce que c'est complètement le contraire de ce que ces hommes vivaient au quotidien, la relégation, la stigmatisation, si ce n'est la persécution dans l'Amérique des années 50 à 70. Et donc, c'est un objet qui est très attrayant pour des hommes comme lui, et donc ils vont avoir à cœur de cultiver cette tradition.
I am throwing wood on the fire.
Je mets du bois pour alimenter le feu. On commence par des petites branches et on a fait nos propres fagots.
And as you can tell, it's getting smoky.
Comme vous pouvez le voir, ça fume.
Like the witches, we used to get burned.
Comme les sorcières, on a l'habitude d'être brûlés.
Fire is always magic, but it's cold.
Le feu, c'est toujours magique, mais là, il fait froid. Et ce soir, on a envie d'être dehors.
Donc je vous invite à me suivre pour faire la visite des lieux.
François.
On utilise cette cheminée et les alentours comme notre hôtel. Hôtel avec un U. Donc un lieu où on expose des objets personnels. Avant-hier, on avait notre soirée d'inauguration de l'hôtel, où chacun a présenté son ou ses objets de toute nature et on les a mis là. Et chacun est invité pendant cette semaine à, s'il veut, se mettre devant, à méditer. C'est un lieu de rassemblement mental.
Alors on y voit des livres, on y voit un os de sèche, on y voit des cartes à jouer. On y voit des fleurs.
Moi, j'ai ramené deux petites branches de mon jardin. C'est du buis. J'ai un arbre de buis dans mon jardin à Luxembourgville. Et puis, des branches de romarin, mais je crois qu'ils ont disparu. Ah, il y en a encore là. Et puis, j'ai ramené du papier d'Arménie pour brûler et qui donne un bon parfum à la pièce. Voilà, il y a des bougies. C'est un peu improvisé. Mais comme toujours, avec les fées, ça vient du cœur et c'est fait avec amour.
Les fées radicales revendiquent ce qu'aujourd'hui on désigne par la bispiritualité, donc la coexistence des esprits masculins et féminins au sein d'une même personne. Parfois, c'est un esprit de femme dans un corps d'homme. Parfois, c'est la coprésence des esprits masculins et féminins au sein d'une même personne. Parfois, c'est l'indifférenciation des genres masculins et féminins. Donc, il y a énormément de variantes différentes. Donc, de cette diversité des manifestations de la bispiritualité, les fées radicales ne retiennent qu'une forme particulière. Comme s'il y avait une homosexualité authentique qu'on pourrait rattacher à la nature. Néanmoins, c'est le moyen par lequel les fées radicales se rattachent justement à la Terre dans le cadre de leur retraite. Et ce rattachement à la Terre, il permet beaucoup de choses. Donc, il permet des rituels assez variés dans lesquels il y a des cercles de parole, il y a des bains de boue, il y a des veillées, il y a des séances de spiritisme aussi. Et ça, c'est pas du tout inintéressant et c'est assez significatif parce que c'est des séances de spiritisme dans lesquelles on va invoquer, donc de même que les personnes bispirituelles sont parfois des chamans qui sont capables d'entrer en communication avec les esprits des anciens qui sont morts, et ben là, de la même manière, il y a l'idée d'évoquer l'esprit des grands leaders, des grandes figures de la cause homosexuelle qui sont mortes, donc on va invoquer l'esprit de Walt Whitman, on va invoquer l'esprit d'Oscar Wilde, ou bien on va encore invoquer l'esprit de Harvey Milk, le martyr gay états-unien par excellence.
One, two, three, yo! Heart circle in 5 minutes.
Alors,
Eftimios,
on va commencer dans peu de temps le heart circle, le cercle de cœur. C'est une des plus anciennes et plus importantes traditions de Radical Fairies. C'est un rite qui a été emprunté par les indigènes américains. Tout simplement, c'est un cercle où on se met dans un cercle, on parle, chacun son tour. Chaque personne qui parle tient un objet et cet objet lui donne la parole. Et cet objet a passé d'une personne à une autre personne. Et on est censé juste parler du cœur. On parle des choses qui nous touchent, les choses les plus peut-être vulnérables de notre cœur. Le reste du cercle, c'est des personnes qui écoutent avec leur cœur. Ça veut dire qu'ils sont là sans jugement. C'est pas nécessaire de parler. On peut passer l'objet qu'on appelle le talisman, le talisman, sans parler, ou on peut parler autant qu'on veut, vraiment. On ouvre quelque chose de magie, de quelque chose de spirituel, et alors c'est sacré. Tout ce qui est parlé dans le cercle est confidentiel. Des fois, c'est vraiment très profond, très émotionnel. D'autres fois, c'est plus léger. C'est pas une thérapie, mais ça peut être très thérapeutique. C'est pour ça qu'il faut pas l'enregistrer, parce que, bon... Normalement, il y a une personne qui facilite le cercle de cœur. Cette personne qui ouvre un peu, des fois avec une méditation ou quelques respirations profondes. Chacun a son petit truc. Et on essaye, moi j'essaie, quand je suis dans un rassemblement, j'essaie de faire un cercle de cœur tous les jours parce que je trouve que cette tradition, si on le fait tous les jours, pendant une semaine ou 10 jours, après le cœur est grand ouvert. Des fois j'arrive après le rassemblement d'être dans un état d'ouverture et de douceur. Et c'est une des raisons pourquoi je reviens toujours au Fair Gathering. Ouais.
Come on, fairies! Beautiful! Let's have heart circle! Heart circle!
Let's go around and say our names first. And then we'll have a musical demonstration.
I would say, you know, that my parents grew up during the Second World War.
Mes parents ont grandi durant la Seconde Guerre mondiale.
Matari.
Mon père a même servi sous les drapeaux, 2 ou 3 ans, pendant la guerre. Je pense que cela les a définitivement brisés. Et ils n'ont jamais vraiment réussi à s'en remettre. Mon père était très autoritaire et même assez violent. Pas physiquement, mais par la voix et les mots. Il m'a beaucoup crié dessus pendant mon enfance, ce qui m'a traumatisé. Quand j'étais à la maison, j'avais l'impression d'être plus ou moins en prison. Plus tard, j'ai découvert que j'étais très timide et que je manquais d'assurance dans tout ce que je faisais. Je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. J'ai essayé de me guérir, mais se guérir seul ne suffit pas. Vous savez, il faut se faire aider et s'ouvrir à d'autres espaces. Et puis, je me suis marié et j'ai eu 2 enfants. Pendant la grossesse de ma femme, qui attendait notre second enfant, mes hormones, tout ce qui était en moi a soudainement changé. Et j'ai découvert que j'aimais aussi les personnes de mon genre. J'ai découvert qu'il y avait un monde immense à explorer. Et qu'il y avait tant de choses en moi qui méritaient d'être révélées. Puis j'ai découvert les fées. Et j'ai pensé que je pouvais essayer de résoudre tous mes problèmes lors de mes premiers cercles du cœur. J'ai beaucoup pleuré. Puis au fil des réunions, c'était de plus en plus apaisant. Et je pouvais être de plus en plus la personne que je suis vraiment. Maintenant, je suis plus en paix avec mon père et ma mère. Mon père est mort il y a 30 ans. Cela m'a libéré de ne plus avoir cette pression en moi parce que c'était une pression psychologique permanente. Et quand j'ai découvert les fées radicales, j'ai ressenti tellement de liberté et de respect. Elles se respectent tellement les unes les autres. Et je reçois beaucoup d'amour de leur part.
superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
This is the music I collected for my funeral.
C'est la musique que j'avais choisie pour mes funérailles en 1994. J'étais sur le point de mourir du sida, et ça n'est pas arrivé. Voilà, je suis là, et je m'appelle John. Mon nom de fée est Tiatia. Je suis hollandais et je vis en Allemagne. J'ai été victime de discrimination dans ma vie. Du moins, j'en ai eu l'impression à de nombreuses reprises. En tant qu'homosexuel vivant avec une femme, j'ai été discriminé par la communauté gay au début des années 70. Plus tard, j'ai été discriminé en tant que danseur parce qu'aux yeux des autres, un danseur doit être gay et ne pas vivre avec une femme. Mais la danse n'a rien à voir avec l'homosexualité. L'homosexualité est un fait. Ce n'est pas une qualité pour moi. Plus tard, j'ai bien sûr été victime de discrimination en tant que malade du sida, en tant que personne infectée par le VIH. J'ai été infecté en 1983. J'avais 33 ans. J'étais dans la fleur de l'âge. Et pour être une personne libre, considérée comme responsable vis-à-vis de la société, il faut être accepté. Et nous ne l'étions pas. Le sida a prouvé qu'il était bon pour le reste de la société que nous ne soyons pas acceptés. Et nous avons dû lutter contre cela. À ce moment-là, toutes sortes de communautés ont vu le jour, notamment les fées radicales qui ont mis en avant non seulement les activités politiques, mais aussi les activités spirituelles. Chacun est libre, mais certaines fées, en tant que personne, en tant qu'énergie, ont vraiment besoin d'être connectées à ces moments spirituels. Et je pense que c'est ça. Les fées radicales.
Tiatia, dans la maison où nous nous trouvons, il y a beaucoup d'albums de photos. J'ai l'impression que chaque membre des fées radicales a amené son propre album de photos.
Maintenant, quand je regarde ces photos, bon, je ne les ai pas vues depuis longtemps. Je vois que j'avais les cheveux longs et blonds. Et je me souviens très bien qu'après avoir contracté le sida, je me suis dit... Ok, je vais me faire pousser les cheveux comme Samson qui en tirait sa force. Et puis j'ai pensé que c'était mieux de les teindre, que c'était plus dans l'esprit de ce que je voulais faire. Je les ai coupés au bout de quelques années et en 2018, j'ai eu un cancer. C'était très grave aussi. Et j'ai à nouveau décidé de les laisser pousser. Maintenant, ils sont gris et j'en ai moins. Mais c'est le genre de choses dont j'aime me souvenir. Vous savez, cela donne de la couleur au chemin que vous avez parcouru. Cela prouve que j'étais heureux à cette époque. Maintenant que j'en parle, les émotions surgissent parce que c'était une période difficile. Et pourtant, là, sur ces photos, vous pouvez voir que j'étais heureux. Pourtant, j'étais en train de mourir, je le savais. Et beaucoup de mes amis sont morts. Je les ai soutenus. Mais ça fait partie de la vie et je ne suis pas une victime. Je fais partie de ce que la vie m'apporte et de ce que j'en fais. Alors, allons-y.
SIDA, SIDA, les initiales de syndrome d'immunodéfense déficience acquise. Des initiales qui font peur, le SIDA est responsable de la mort de plus de 600 personnes aux États-Unis. Une maladie extrêmement mystérieuse, elle enlève toute défense à l'organisme qui devient ainsi vulnérable à n'importe quel microbe. Le sida, les Américains l'appellent le cancer gay parce qu'il a touché jusqu'ici une très forte proportion d'homosexuels. C'est devenu une véritable psychose là-bas, comme on ne sait pas si c'est contagieux, les infirmières refusent de soigner certains malades, des croque-morts refusent d'enterrer, des sauveteurs refusent de faire du bouche-à-bouche. Les homosexuels deviennent aux États-Unis les nouveaux pestiférés.
La lutte contre le sida, d'abord, ça a été une lutte de visibilité.
Stéphane.
C'est-à-dire de faire en sorte que les personnes malades, les personnes qui mourraient, ne soient pas invisibilisées en les cachant, en changeant la cause de la mort, des choses comme ça. Le premier combat, ça a été ça. Ça a été à peu près gagné quand on a commencé à avoir des célébrités qui officiellement mouraient du sida. Donc du coup, les pouvoirs publics étaient obligés d'en prendre compte, puisque l'opinion publique était sensibilisée. Donc il y a un premier combat sur ça, sur la visibilité. Deuxième combat, ça a été sur la prévention. Une fois qu'on a compris comment on pouvait prévenir la maladie, avec le préservatif, les seringues stériles, etc., il fallait forcer les gouvernements à assurer ces moyens de protection au plus grand nombre. Donc, qu'il n'y ait pas de barrière financière, qu'il n'y ait pas de barrière morale, qu'il y ait une disponibilité des moyens de prévention large, etc. C'était la deuxième. La troisième, bien sûr, ça a été de se battre pour des traitements et d'avoir des traitements efficaces. Voilà, ça c'était les combats, et donc au quotidien on se battait pour ça, et simultanément on allait au cimetière tout le temps pour enterrer des gens. Et ça c'était un impact sur nous. C'est difficile à transmettre aujourd'hui aux jeunes générations ce que c'est que d'avoir 20 ans et d'entendre qu'il y a une maladie mortelle qui circule dans votre population, et puis d'avoir 30 ans et d'avoir déjà enterré la moitié des gens avec qui on a fait la fête quand on avait 20 ans. C'est difficile pour les gens de percevoir ça, ils le comprennent de manière théorique, mais de le vivre, c'est brusquement. C'est-à-dire qu'à 20-30 ans, quand on est au pic de la vie, du cycle de la vie, qu'on doit normalement se reproduire, si je puis dire, mais enfin, en tout cas, on est dans la vie, on va donner la vie, etc. Nous, on vivait dans la mort. On vivait dans la mort tout le temps. C'était la maladie, la mort, la maladie, la mort. Et on s'en sortait en se battant, parce que quand on se bat contre quelque chose, c'est plus facile à gérer, concrètement. Et puis on s'en sortait parce qu'on avait des échappatoires comme l'effet radical qui nous permettait de pousser des soupirs de soulagement d'une semaine pour reprendre des forces, parce que c'était vraiment infernal, quoi. Avec l'âge, je me dis, mais ça a été horrible. Enfin,
En 1979, c'est le début d'effet radical, c'est juste avant la décennie où le sida déferle sur les communautés gays aux États-Unis comme ailleurs. Et donc, commémorer les morts dans un contexte où les morts sont très très nombreux, c'est important. Inventer des rituels de dispersion des cendres, rendre possible la fabrication de mémoriaux, de monuments qui vont commémorer la vie et la mort de quelqu'un, c'est extrêmement important à une époque où, par exemple, l'homophobie était telle et tellement forte dans les années 1980-90 aux États-Unis que, par exemple, quand un homme gay disparaissait, c'était la famille qui récupérait le corps. La famille avait tous les droits. Cette même famille qui pouvait très bien avoir rejeté son fils, son enfant, son frère, etc., l'avoir complètement stigmatisé, bah, cette même famille, elle avait tous les droits sur le corps, sur la dépouille, sur les obsèques, sur la commémoration, sur les biens, évidemment, sur les propriétés de cette personne qui avait disparu. Et donc, dans ce contexte-là, les rituels des Radical Fairies permettaient à la communauté de vivre un deuil qui lui était impossible, souvent impossible de vivre en raison de ces obstacles-là dus à l'homophobie. Donc ces rituels, ces commémorations, elles sont très significatives. Elles sont significatives aussi à un autre titre, c'est que la disparition massive de toute une génération d'hommes gays à cause du sida dans les années 1980 a créé une espèce de rupture générationnelle qui a fait obstacle, très fortement, mais très concrètement obstacle, à la transmission intergénérationnelle de la mémoire des luttes, des communautés, des cultures LGBTQ. Et donc, de cette manière-là, les rituels païens des Radical Fairies permettent de compenser un petit peu ou de réintroduire de la continuité entre les générations là où l'épidémie de sida avait introduit une rupture.
What I can say for myself is that every gathering is
pour ma part, chaque rassemblement a changé ma vie.
Universe Planet.
Beaucoup de fées radicales disent d'ailleurs que lorsqu'elles rejoignent un rassemblement, c'est comme si elles revenaient à la maison. Et je pense que pour moi, c'est pareil. Comme la première fois où j'ai rencontré l'effet radical, je me suis dit « Waouh ! Mon Dieu, quelle énergie ! Quel chaud ! Quel choc ! C'est une énergie qui change la vie !» C'était vraiment merveilleux. C'est aussi un réseau et moi qui vis en nomade en ce moment, je compte aussi sur ce réseau-là. Il y a tellement de gens différents, de relations inspirantes. Oui, c'est tout pour moi.
Au début, l'effet radical était quand même, c'était que des hommes. Et puis petit à petit, ça s'est ouvert donc à des femmes, lesbiennes ou pas. Et puis on a vu le monde trans s'élargir avec les hommes trans. On a vu les non-binaires et voilà. Et aujourd'hui, c'est très ouvert. C'est beaucoup plus ouvert qu'avant. Ce qui est bien, une des vertus des radical theorists, c'est de se confronter à la différence et puis d'apprendre des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, pour dans le contexte actuel et dans le monde actuel, bah, c'est plutôt bien. Je pense qu'il y a des gens de tous les horizons qui se réunissent pour partager ensemble dans l'esprit des radical theorists, qui est la communion avec la nature, le non-jugement, le fun, la liberté.
Le Cercle du Cœur, avec Guillaume March et l'effet radical, Eunice, Tinkerbell, Françou, Eftimios, Matahari, Tiatia, Stéphane et Universe Planet. Archivina, Mylène Touché. Traduction, Thierry Beauchamp. Avec les voix de Didier Brice et Romain Lemire. Prise de son, Romain Luquens. Mixage, Marie Lepeintre. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. L'effet radical, à la recherche du gay spirit, un documentaire de Pierre Chassagneux, réalisé par Julie Béressy.